journal. Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, officiellement, ce n'était pas une fête. Toute la Macronie avait rendez-vous hier soir à Paris pour célébrer une année au pouvoir. Soirée privée, les participants ont été priés d'éviter la presse et surtout de jouer profil bas. C'est l'article qui fâche. Les députés ont adopté cette nuit l'article 2 de la loi sur les violences sexuelles. 5 heures de débat, parfois tendu, vous l'entendrez. Une condamnation, mais pas de prison pour Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre écope de 2 ans ferme pour fraude fiscale. Mais sa peine devrait être aménagée. On en parle dans ce journal et avec votre invité dans 20 minutes. C'est Nicolas Dupont-Aignan.
Député de l'Essonne, président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan dans le grand entretien du 7-9 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Dans ce journal également, la Corée du Nord qui jette un froid. Tout compte fait, son leader n'est plus certain d'aller serrer la main de Donald Trump le mois prochain. Le journal d'Anne Frank qui comptait en réalité 2 pages supplémentaires. Des chercheurs viennent de les retrouver. Des bébés trop maigres à cause de la pollution de l'air. Et puis le grand jour à Marseille qui rêve de soulever à nouveau la Coupe d'Europe. Il faudra battre l'Atlético Madrid ce soir en finale de l'Europa League. Cacher cet anniversaire que l'on ne saurait voir, pas de champagne ni de danse enflammée hier soir à Paris, où les amis d'Emmanuel Macron célébraient donc sa première année à l'Élysée. 400 convives, dont le Premier ministre, réunis dans un bar. Mais promis juré, on n'était pas là pour faire la fête, car en période de gros temps social, cela ferait un peu tâche. Soirée jeu de piste et profil bas, suivi par Laurence Perron.
Le suspense jusqu'au bout aura été entretenu. Les invités n'ont été prévenus que vers 17h30 de l'adresse. Un député justifiait alors une rêve partie, on ne connaît le lieu qu'au dernier moment. À l'heure avait même été diffusé un bar du 10e arrondissement. Ce sera finalement le musée des Arts Forains dans le quartier de Bercy. Les anciens chais du roi, aux allures hier soir de camp retranché. Station de métro fermée, imposant dispositif policier, invité muet.
Vous êtes là pour les 1 an ? Vous n'avez pas le droit de parler ?
S'il vous plaît, je suis désolée, ouais. La presse n'est plus sur le trottoir.
Ah d'accord.
Quelques 400 participants, une dizaine de ministres, des députés, des militants pour la célébration des 1 an de la victoire. Appelons l'événement comme cela, puisque la puissance invitante, La République En Marche, refuse de parler de fête. Christophe Castaner, le grand organisateur.
D'abord, moi, je n'ai pas l'esprit festif quand je suis dans mes fonctions. Vous savez, le soir de l'élection législative, un journaliste m'a dit « Vous avez gagné ». J'ai répondu « Nous aurons gagné en 2022 ».
Pas de champagne, musique discrète, des discours en revanche, à commencer par celui du Premier ministre Édouard Philippe, arrivé en catimini pour déjouer les caméras indiscrètes. Certes, un décor de fête foraine, mais les marcheurs d'Emmanuel Macron l'ont joué sobre pour ne pas insulter sans doute l'avenir de leur piste aux étoiles.
Et l'avenir pour la majorité, c'est aussi la contestation contre les réformes d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, la CGT annonce qu'elle défilera aux côtés de la France insoumise. Ce sera dans 10 jours, lors de la journée de mobilisation du 26 mai.
Il aura fallu 5 heures de débat et quelques clashs, mais les députés, Marc, ont adopté cette nuit l'article 2 de la loi contre les violences sexuelles.
Oui, c'est celui qui fait le plus débat. Il renforce la répression des infractions sexuelles commises sur les mineurs, mais sans aller jusqu'à fixer un âge de consentement sexuel, en dessous duquel un rapport avec un adulte aurait été automatiquement considéré comme un viol. Le gouvernement l'avait envisagé avant de renoncer et dans l'hémicycle, les débats ont parfois été tendus, à l'image de cet échange entre la secrétaire d'État Marlène Schiappa, venue défendre son texte, et le député Les Républicains Fabien Di Filippo.
Comment imaginer, Madame la Ministre, qu'une relation sexuelle entre un mineur de 11, 13 ou même 14 ans avec un adulte de 30, 40, voire 50 ans, puisse ne pas s'être faite sous la contrainte physique, sous la contrainte psychique ou alors sous l'emprise d'une manipulation. Vous nous avez appelé, Madame la rapporteure, à la responsabilité tout à l'heure. Mais Madame la Ministre, ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'est que vous puissiez à ce moment manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants.
Merci. Attendez, Madame la Ministre, vous demandez la parole, vous l'avez la parole.
Je demande une suspension de séance. Monsieur le député Philippot n'a pas à m'insulter de la sorte ni à faire des suppositions qui sont totalement déplacées dans le cadre de débat qui démontrent encore une fois sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes.
Nous suspendons nos travaux pour 5 minutes.
Voilà, et l'article a finalement été adopté avec les seules voix des députés marcheurs. Pas de prison pour Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du budget a été condamné hier en appel à 2 ans ferme pour fraude fiscale. Mais il devrait voir sa peine aménagée avec un possible le placement sous bracelet électronique. Après l'ancien ministre, hier, aujourd'hui, c'est un ancien président qui a rendez-vous devant la justice. Nicolas Sarkozy conteste son renvoi en correctionnel dans l'affaire Big Malion, affaire de financement peut-être illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'audience se tient ce matin devant la cour d'appel de Paris. Sarah Guibaudeau.
L'enquête avait été plutôt rapide, moins de 2 ans. Le procès Big Malion, lui, se fait attendre. Et on ne sait pas encore si Nicolas Sarkozy sera à la barre des prévenus. L'ancien président est renvoyé en correctionnel pour financement illégal de campagne. Il n'est pas prouvé qu'il était au courant du système de fausses factures. Mais pour le juge d'instruction Serge Tournaire, le candidat Sarkozy est bien responsable du dérapage financier. Il a voulu dépenser plus, malgré les alertes des experts comptables. Ce n'était pas l'avis du juge Renaud Van Ruymbeek et ce désaccord a ouvert à la défense une nouvelle voie de recours. L'avocat de l'ancien président fait surtout valoir que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé en 2013 sur le dépassement du plafond des dépenses. Il avait confirmé le rejet du compte de campagne. Maître Thierry Herzog pose donc une question prioritaire de constitutionnalité sur la base du principe qui veut qu'on ne soit pas jugé deux fois pour les mêmes faits. Mais est-ce vraiment la même chose? Alors que les fausses factures de Big Malion n'étaient pas encore connues, les sages ont examiné un dépassement de 360 000 euros. La justice a ensuite découvert qu'il s'élevait à près de 20 millions.
Sarah Guibaudeau, les suites de l'attentat au couteau samedi dernier à Paris. Les parents du terroriste présumé ont été remis en liberté hier soir après leur garde à vue. Ils ne sont pas poursuivis. En revanche, les enquêteurs ont prolongé la garde à vue de l'ami de Ramzat Azimov. Sans rapport avec cette enquête, une filière tchétchène soupçonnée de préparer un attentat a été démantelée hier. 3 femmes et un homme arrêtés dans les Yvelines et dans le Bas-Rhin. En bref, les fraudes à la carte bancaire en forte hausse. D'après l'Observatoire de la délinquance, plus d'1 200 000 foyers en ont été victimes en 2016 pour un montant moyen de la fraude à 300 euros. Et puis, il fallait oser, ils l'ont fait à Tourcoing. La police vient de mettre la main sur une immense plantation de cannabis. 800 pieds au total qui avaient été plantés, ça ne s'invente pas, dans un immeuble situé juste en face du tribunal.
Un premier accro marque dans le réchauffement avec la Corée du Nord.
Grosse colère de Pyongyang. Cette nuit, le régime nord-coréen menace d'annuler le sommet prévu le mois prochain avec Donald Trump si les États-Unis cherchent à lui imposer l'abandon de son arsenal nucléaire. Alors, est-ce un revirement ou un coup de billard à 3 bandes? En tout cas, la Maison-Blanche, Isabelle Labeyrie, a été la première surprise.
Visiblement, personne n'avait rien vu venir. Comme la Maison-Blanche, le département d'État semble pris de court hier soir. Quand sa porte-parole s'exprime, ce sont les exercices militaires américains qui sont alors mis en cause par Pyongyang.
On n'a vraiment aucune information. Tout ce qu'on sait, c'est ce que Kim Jong-un a déjà dit. Et il a dit qu'il comprenait l'importance de ces exercices militaires pour les États-Unis comme pour la Corée du Sud. Ce sont des exercices légaux, planifiés très à l'avance. Ce n'est pas une provocation. Mais encore une fois, on n'a reçu à ce sujet aucune notification, formelle ou informelle.
Donc vous continuez à préparer le sommet?
Absolument. On planifie toujours la rencontre entre le président Trump et Kim Jong-un.
Ce matin, ce ne sont plus les exercices militaires qui posent problème, mais les exigences de Washington qui réclament l'abandon total de l'arme nucléaire. Pyongyang, irrité par l'autosatisfaction américaine de ces derniers jours, a tout simplement décidé de reprendre la main. Donald Trump est pris à son propre jeu. Les négociations peuvent vraiment commencer. Washington, Isabelle Labeyrie, France Inter.
Toujours à l'étranger, des colonnes de fumée et la terre qui tremble. Hawaï est en alerte rouge après le réveil de l'un de ses volcans. Des milliers de personnes évacuées, les avions priaient d'éviter le secteur en raison d'un immense nuage de cendres sorti du cratère et qui atteint désormais les 3000 mètres de haut.
Et voilà, Marc, un effet de la pollution qu'on n'avait pas forcément imaginé.
Alerter les bébés, comme le chantait Jacques Higelin en France, un nouveau-né sur 100 naît avec un poids insuffisant à cause de l'air pollué inhalé par sa mère. Résultat d'une étude de l'INSERM, qui chiffre également à plus d'1 milliard d'euros la facture pour notre système de soins, Daniel Messager.
Un enfant sur 100 naît avec un faible poids à la naissance, moins de 2,5 kg, à cause de la pollution atmosphérique à laquelle a été exposée sa mère, les femmes enceintes étant particulièrement vulnérables. Ce poids en dessous de la moyenne, on parle d'hypotrophie, est source de retard de développement. Isabella Anesima-Ezano, directrice de recherche à l'INSERM, responsable de cette étude.
Ce sont des conséquences à la naissance, car ces enfants ont besoin de soins plus que les autres. Et puis, il y a ensuite un problème de retard moteur et intellectuel. Ça peut être des difficultés de coordination, des troubles d'apprentissage, puis la socialisation. Et parmi ces enfants, il y en a qui ont aussi un déficit en quotient d'intelligence très important. Et ce sont ces enfants qui coûtent le plus cher.
C'est-à-dire 1,2 milliard d'euros si l'on ajoute les soins intensifs en maternité, puis la prise en charge des handicaps. En raison de cette pollution atmosphérique, de plus en plus d'enfants connaîtront ces problèmes de handicap à la naissance, avec des coûts toujours importants à supporter pour la société.
Daniel Messager, la colère est retombée. Les barrages ont été levés depuis un mois, mais Mayotte attendait de pied ferme le plan du gouvernement. Il a été annoncé hier soir par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, 1,3 milliard d'euros d'ici la fin du quinquennat, dont près de la moitié pour construire des établissements scolaires et 200 millions pour rénover l'hôpital.
Il est 8h11, Marc. Et si c'était le grand soir pour l'OM ?
Plus qu'une petite marche à franchir avant de soulever la coupe. Marseille est en finale de l'Europa League ce soir à Lyon, face aux Espagnols de l'Atlético Madrid. Sur le papier, les Madrilènes sont favoris, mais avec l'OM cette année, tout est possible, Franck Ballanger.
Rolando, le défenseur de l'OM, a joué au FC Porto, à Naples ou à l'Inter Milan avant de débarquer au Stade Vélodrome, trois clubs réputés pour leur caractère. Mais d'après le Portugais, Marseille peut rivaliser avec n'importe qui en termes de culture et d'état d'esprit.
Quand tu as ce maillot-là, tu sais à qu'est-ce que tu joues, à quoi tu joues. Et dans cette ville, on vit pour ça. Et quand tu arrives dans ce club, c'est la première chose que tu apprends. C'est aimer ce club, aimer ce blason et à te battre pour ça.
Parce que l'OM est une institution, les joueurs se sentent investis d'une mission sur le terrain. Cela s'est vu toute la saison, avec des renversements de situations spectaculaires en Coupe d'Europe ou en Championnat de France. C'est exactement pareil pour l'Atlético, une équipe réputée pour ne rien lâcher. Les Espagnols et Gabi, leur capitaine, ne sont jamais avares d'efforts.
Nous sommes une équipe qui sait souffrir pendant 90 minutes. Nous l'avons prouvé tout au long de la saison, notamment lors des grands matchs. Notre atout, c'est que nous savons passer par des moments difficiles.
Marseille possède l'envie, traduction espagnole. L'Atlético a la grinta, match nul de ce côté-là. L'OM va donc devoir conserver son état d'esprit et hausser son niveau de jeu l'espace d'une soirée pour vraiment rivaliser. À Lyon, Franck Ballanger, France Inter.
Marseille qui rêve donc de revivre le grand frisson de 93. Le club avait été le premier en France à remporter une Coupe d'Europe. Évidemment, tous les supporters, Nicolas, seront au rendez-vous à Lyon, où se joue la finale, au Stade Vélodrome à Marseille, où un écran a été installé, ou tout simplement devant la télé, tous, sauf un peut-être, c'est le rappeur Akhenaton du groupe Ayam, cette soirée il ne l'aurait raté pour rien au monde, mais pas de chance, ce soir il sera loin, très très loin du Vélodrome.
Je serai derrière l'OM, mais de l'avion, parce qu'on part en tournée avec Ayam aux États-Unis, et on est dans l'avion, on est dégoûté. Ce sont des dates qui sont calées depuis 8 mois. Et on n'aurait jamais imaginé, il y a 8 mois, voir l'OM en finale d'Europa League. Donc on le prend du bon côté. Et très heureux pour le club, très heureux pour la ville. La ville en a bien besoin pour le moral. Ça fait des années qu'on n'avait pas vécu ça. Bon, en parlant de nous, tant pis pour nous. Mais on espère que quand on atterrira, on aura un... Si à Los Angeles, ça crie très fort dans l'aéroport, c'est qu'on aura gagné.
Voilà, Akhenaton au micro d'Yves Prunetta, coup d'envoi 20h45 en cas de victoire. Les joueurs de l'OM ont déjà tout prévu, bus à Impérial et défilé demain après-midi sur le Vieux-Port à Marseille.
Il est 8h13, c'est un témoignage, un petit morceau d'histoire avec un grand H. Le journal d'Anne Frank, Marc, vient de livrer ses derniers secrets.
Des chercheurs viennent de retrouver deux nouvelles pages du célèbre journal intime que l'adolescente avait écrit en cachette en 1942 à Amsterdam, alors qu'elle et sa famille se cachait des nazis, deux pages qu'elle avait cachées sous du papier Kraft et que la technologie a permis de déchiffrer. On n'est pas sérieux quand on a 13 ans, alors guerre ou pas, c'est de sexe qu'il est question dans ces pages inédites. Mathilde Dehimi.
Son journal intime, rouge et blanc, est connu du monde entier, mais c'est pour le cacher à son père qu'Anne Frank a recouvert deux pages de papier Kraft, et il valait mieux en effet.
Tous les hommes, s'ils sont normaux, vont avec des femmes. Les femmes comme ça les accostent dans la rue et ensuite ils partent ensemble. À Paris, ils ont de grandes maisons pour ça. Papa y a été.
Ces quelques lignes révèlent ses désirs d'adolescente recluse 2 ans dans une maison d'Amsterdam, son envie d'éducation sexuelle face à des adultes trop prudes à son goût. Anne Frank s'essaie aussi à l'humour.
Un homme craint d'être trompé par sa femme. Il fouille la maison et trouve un homme nu dans le placard. Quand le mari demande à l'homme ce qu'il fait ici, l'homme nu répond « Croyez-le ou non, J'attends le tram.
Le sexe était déjà présent, mais dans un style moins littéraire, dans d'autres pages du journal, censuré à la première publication par son père, seul survivant de la famille. Il faudra encore attendre un peu pour avoir une version augmentée et plus pimentée du journal d'Anne Frank pour des questions de droit d'auteur.
Mathilde Dehimy, enfin, c'est une tradition qui se perd et un sale coup également pour les touristes. Les fêtes de Bayonne, qui réunissent fin juillet jusqu'à 1 million de personnes, seront désormais payantes pour les non-résidents. 7 euros la place pour un pass de 3 jours. Décision de la mairie car les dépenses de sécurité ont explosé ces dernières années et après Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan pourraient elles aussi faire payer l'accès à leurs fêtes.
Merci Marc Fauvel.